écoutez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile.
Bonjour à tous, appel sur l'actualité, c'est jusqu'à 9h, temps universel. Ravi de vous retrouver sur l'antenne de RFI. Dans 30 minutes, comme chaque vendredi, on se retrouve pour la libre antenne. RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité de votre choix. Vous pouvez évoquer tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine, revenir sur les principaux événements, ceux qui ont fait la une des médias. Contactez-nous si vous préférez, eh bien plutôt nous sensibiliser sur des thèmes qui, selon vous, ont été oubliés, moins développé par la presse. Appelez-nous également, l'antenne vous est ouverte au 33 9 693 693 70 ou 09 693 2 fois 70 si vous appelez de France. N'oubliez pas évidemment notre adresse email appelaupluriel.actu@rfi.fr ainsi que nos comptes Facebook et Twitter. Mais avant, comme chaque jour, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. On devait avoir Lamine en ligne avec nous, Lamine en ligne de Banjul en Gambie. Malheureusement, les lignes ne passent pas. Muriel Delcroix, elle, est en ligne depuis le Royaume-Uni, notre correspondante à Londres. Bonjour Muriel.
Bonjour Sébastien.
Alors, Lamine voulait revenir sur ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, les législatives, avec la victoire de David Cameron, le Premier ministre britannique, qui confirme donc sa place avec, en plus, une majorité absolue, mais aussi des indépendantistes écossais qui ont un record de sièges. Alors, une première question de Lamine, Muriel, c'est qu'est-ce qui explique ce succès de David Cameron et également celui des indépendantistes écossais?
Alors, je crois qu'il y a deux choses qui expliquent le succès des conservateurs. D'abord, une campagne électorale efficace. Oui, les gens l'ont trouvé ennuyeuse, mais en fait, le message martelé aux portes des électeurs par les candidats conservateurs et leur leader David Cameron a lui porté au-delà des espérances du parti. Une rhétorique qui a joué sur la peur du SNP, le parti indépendantiste écossais, en disant aux électeurs que s'ils votaient pour le Labour, ils se retrouveraient avec un gouvernement travailliste à la merci des nationalistes écossais qui prendraient en otage toutes ces décisions importantes. Eh bien, les candidats conservateurs ont réussi à ramener au bercail beaucoup d'électeurs indécis, notamment des électeurs conservateurs qui étaient tentés de voter pour le UKIP, le parti populiste de Nigel Farage. Et puis l'autre facteur qui explique le succès des Tories, c'est quand même le bon bilan économique qu'ils ont pu mettre en avant pendant la campagne, en ajoutant que même si tout le monde ne ressentait pas encore les bénéfices de cette croissance, il fallait justement permettre au parti de rester au pouvoir pour finir le job, comme l'a si souvent répété David Cameron.
Alors on l'a dit, l'autre parti victorieux, c'est le SNP, le mouvement des indépendantistes écossais. Muriel, qu'est-ce qui explique là aussi leur montée en puissance ?
Alors là, c'est un succès qui est directement lié paradoxalement au référendum sur l'indépendance de l'Écosse que les pro-indépendantistes ont pourtant perdu en septembre dernier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le débat généré par ce référendum très passionnel a soulevé énormément d'enthousiasme et un appétit tout nouveau pour la chose politique en Écosse. Et comme le SNP représentait le parti de l'espoir d'un avenir différent, qu'il véhiculait aussi un message positif sur les ressources de l'Écosse, contrairement en fait à la campagne négative de ceux qui voulaient préserver l'union du royaume, eh bien les Écossais se sont naturellement tournés vers le SNP et sont allés voter en masse pour ces candidats. Et puis aussi, les électeurs écossais ont préféré un parti qui présentait un programme plus à gauche que le Labour. Labour à qui ils n'ont pas toujours pas pardonné d'avoir fait campagne aux côtés des conservateurs lors du référendum. Il faut savoir que les conservateurs sont détestés par la plupart des Écossais. Et puis il faut quand même saluer la campagne extrêmement bien menée du SNP sous la houlette de Nicola Sturgeon, leur dirigeante, qui est devenue une véritable star en Écosse alors qu'elle ne se présentait même pas à ces élections.
Alors Muriel, restez avec nous parce que Lamine avait une seconde question concernant la politique de David Cameron, déjà sa politique vis-à-vis de l'Écosse, et puis est-ce qu'on peut craindre maintenant un éclatement du Royaume-Uni ?
Alors, pour l'Écosse, David Cameron, comme les autres leaders d'ailleurs de partis à Westminster, a promis un transfert accru de compétences au Parlement écossais et il va respecter cette promesse. C'est l'une des choses qu'il a d'ailleurs redites dès le jour de sa réélection la semaine dernière. Et il rencontre aujourd'hui même Nicola Sturgeon à Édimbourg. Il va d'ailleurs en profiter pour réaffirmer sa volonté de créer, comme il l'a dit, le gouvernement décentralisé le plus fort du monde, avec d'importants pouvoirs en matière d'imposition. C'est une promesse que ne vont pas manquer de lui rappeler chaque semaine à la Chambre des communes les désormais 59 députés écossais. Leur leader, Nicola Sturgeon, n'a cessé de dire que ses demandes prioritaires portaient sur des pouvoirs plus importants en matière de maîtrise des finances. Mais à cela risque, je crois, de s'ajouter des demandes concernant la protection des plus pauvres et donc les allocations universelles. Le SNP a fait campagne contre l'austérité imposée par le précédent gouvernement conservateur et va continuer à le faire haut et fort au Parlement.
Alors, qui dit montée des indépendantistes fait ressurgir évidemment le spectre d'une partition, d'une scission au sein du Royaume-Uni. Est-ce que cette confrontation permanente, Muriel, peut entraîner un éclatement du pays ?
C'est une crainte qui a été beaucoup évoquée et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le but ultime quand même du SNP est de faire sécession avec le reste de la Grande-Bretagne. Ils ne l'ont jamais caché. Leur succès foudroyant et leur aspiration à quitter le Royaume avaient poussé d'autres partis dans les autres régions, qu'on appelle plutôt ici d'ailleurs des nations, à faire entendre leurs propres revendications. Au Pays de Galles, les nationalistes du Plaid Cymru ont commencé à mobiliser les électeurs, en améliorant d'ailleurs leur score pendant les élections. Et en Irlande du Nord, la 4e nation, on réclame aussi désormais une délégation accrue des pouvoirs au Parlement de Belfast. Alors tout cela fragilise le pays, de plus en plus en fait comme un Royaume-Uni. L'éclatement dépend beaucoup à court terme du référendum sur l'Europe qui a été promis par David Cameron d'ici 2017. Vous savez, le fameux Brexit, la contraction de British Exit, la sortie britannique de l'Union Européenne. Ce Brexit pourrait entraîner un Scottish, c'est-à-dire un Scottish Exit. On n'a pas caché que les Écossais qui sont pro-européens refuseraient d'être entraînés hors de l'Union Européenne. Et si l'Angleterre et l'Écosse votent différemment lors du référendum, eh bien le SNP va réclamer une nouvelle consultation populaire sur l'indépendance de l'Écosse. On n'en est pas encore là. Et je pense que Londres et Bruxelles vont tout faire pour empêcher ce type.
Merci Muriel. On va essayer de vous rappeler parce que la ligne est en train de se dégrader avec Londres. De toute façon, on vous retrouve tout de suite puisqu'il y a encore des questions au standard concernant le Royaume-Uni, ses élections législatives, le succès de David Cameron, un peu inespéré, hein, après des sondages qu'il mettait au coude à coude avec Ed Miliband. Voilà, une victoire sans appel finalement. Donc on va vous rappeler puisque Cheikh est également en ligne au standard au 33 9 693 693 70. Bonjour Cheikh. Cheikh, vous m'entendez?
Allô, bonjour.
Bonjour Cheikh, vous êtes à Kati, au Mali, et vous aviez également des questions concernant le Royaume-Uni.
Pendant le Premier ministre a réaffirmé qu'il organisera un référendum.
On vous écoute Cheikh, allez-y.
Présence de la Roumanie dans l'Union européenne. Du coup, j'ai des questions. Quelles sont les raisons qui le motivent? Et si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, quelles seront les conséquences pour les deux parties?
Ah, effectivement, question cruciale maintenant avec cette affirmation de David Cameron d'organiser ce fameux référendum sur la place du pays dans l'UE. Muriel, vous êtes toujours à Londres?
Ah oui.
Voilà, vous nous entendez bien. Et qu'est-ce qui pousse en fait David Cameron, le Premier ministre britannique, à organiser cette consultation populaire?
Alors, c'est une proposition de référendum qui date en fait de 2013 et qui répond à la pression de plus en plus forte exercée sur David Cameron par l'aile eurosceptique de son parti, mais aussi par la montée du parti europhobe UKIP. Le parti conservateur se déchire depuis des décennies sur la question de l'appartenance à l'Europe. Certains députés s'agacent de nombreux transferts de compétences qu'implique cette appartenance aux 28. Alors je vous donne quelques exemples. Les recours de citoyens devant la Cour européenne des droits de l'homme qui peuvent régulièrement contredire les décisions de la justice britannique, ou bien la législation sur le travail qui limite le nombre d'heures qu'un employeur peut demander à ses salariés, la question du droit de vote accordé aux prisonniers dont on ne veut absolument pas entendre parler Londres, et puis bien sûr la question de l'immigration que le leader du UKIP, Nigel Farage, a habilement liée à l'appartenance à l'Europe. Nigel Farage estime que l'immigration est devenue incontrôlable à cause du principe de liberté de circulation des personnes à travers les pays de l'Union et que le seul moyen d'y remédier, c'est d'en sortir. Tous ces arguments rencontrent beaucoup de résonance dans un pays où l'euroscepticisme est très prononcé, mais paradoxalement dont la classe politique en général est plutôt pro-européenne, à part le UKIP. David Cameron ne souhaite pas du tout sortir de l'UE et il espérait, en promettant ce référendum, faire taire l'aile dure de son parti. En réalité, il ne fait qu'exacerber ses revendications et il faut donc maintenant qu'il obtienne de ses partenaires européens des promesses de réforme et des concessions en faveur du Royaume-Uni afin de revenir devant les électeurs pour pouvoir leur dire « voilà, j'ai obtenu tous ces changements, donc il vaut mieux voter en faveur de notre maintien dans l'Union ».
Et si le pays finalement quitte l'Union européenne, quelles pourraient être les conséquences pour les deux parties, Muriel ?
Alors, il y aurait d'abord d'importantes conséquences économiques. Aujourd'hui, quand même, près de la moitié des échanges commerciaux du Royaume sont réalisés avec les autres pays membres de l'Union européenne, sans parler aussi de la perte d'attractivité pour la City. Et tout cela inquiète les grandes compagnies internationales qui évoquent la possibilité de déplacer carrément leur siège européen sur le continent, là où le marché leur semble le plus porteur, compte tenu de son volume. La Grande-Bretagne perdrait aussi les avantages de son intégration dans le marché unique européen. Alors, il y aurait de nouveaux accords commerciaux qui pourraient être conclus, comme ceux qui existent par exemple entre l'Union européenne et la Norvège ou la Suisse, mais ils n'assureront jamais une aussi grande fluidité des échanges. Bref, les milieux d'affaires britanniques qui sont contre une sortie de l'Union européenne estiment qu'au final, la Grande-Bretagne aurait plus à perdre que l'Europe si elle s'en séparait, d'autant que plusieurs régions défavorisées du Royaume, notamment les Cornouailles ou l'Irlande du Nord, bénéficient énormément de l'argent des fonds d'aide européens qui financent par exemple des projets pour développer ces régions. Et puis, du point de vue diplomatique aussi, c'est l'influence du Royaume-Uni en Europe qui serait sérieusement diminuée. Alors, pour l'Union européenne de l'autre côté, les conséquences ne sont pas négligeables. C'est la perte d'un membre, certes turbulent, mais historique, qui serait un échec politique pour la construction européenne. Londres oblige bien souvent l'Union, par son esprit de contradiction, à se remettre en question et puis faire des compromis. Et puis, ce serait aussi le départ d'un pays qui représente un pont vers l'Amérique. Et puis, économiquement, ce serait la perte d'une place financière forte, sans compter que ça ampute l'Union d'un contributeur très important, puisque Londres est le quatrième contributeur au budget européen. Il fournit plus de 10% des ressources. C'est une puissance nucléaire qui possède encore une armée importante. Et ce serait donc la perte d'un maillon fort pour l'Union européenne.
Merci Muriel Delcroix. Restez avec nous, puisqu'il y a encore d'autres questions au standard avec Thierno Sadou en ligne depuis l'Abbé dans le nord de la Guinée. Bonjour Thierno Sadou.
Bonjour Monsieur Sébastien et bienvenue à la VO, on vous écoute sur le 89.9 et c'est 8h sur 24h, monsieur.
Merci beaucoup pour votre fidélité, Thierno Sadou. Alors, quelles sont vos questions concernant le Royaume-Uni? On vous écoute.
D'abord, qu'est-ce qui explique la défaite du parti travailliste d'Ed Miliband que les sondages annonçaient coûte que coûte au parti conservateur de David Cameron?
Muriel, qu'est-ce qui explique effectivement cette vraie déconvenue du parti travailliste ?
Ben c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est la tactique utilisée par les conservateurs durant la campagne électorale qui a très bien fonctionné et qui a fait peur à des électeurs qui ne voulaient pas en fait d'un gouvernement travailliste pris en otage par les députés SNP écossais. Et puis aussi le leader du Labour, Ed Miliband, dont la popularité a connu une embellie durant la campagne, n'a malgré tout en fait jamais réussi à séduire les Britanniques qui dans tous les sondages d'opinion ont toujours quand même indiqué qu'ils ne lui faisaient pas confiance et qu'ils n'étaient pas convaincus par son programme, notamment économique. L'autre explication, Thierno Sadou, qui a été avancée par plusieurs personnalités, cette fois-ci du Labour depuis la défaite cuisante d'Ed Miliband, c'est une erreur de jugement. Le Labour s'est avéré trop à gauche pour les électeurs en Angleterre et trop à droite, à l'inverse, en Écosse, en proposant une version allégée du programme d'austérité des conservateurs. Résultat, les travaillistes voient aujourd'hui leur marge de manœuvre réduite géographiquement, c'est-à-dire que l'Écosse est très clairement sous le charme du SNP, tandis que le sud de l'Angleterre, à l'exception de Londres, vote désormais en faveur des conservateurs.
Thierno Sadou, très très vite, vous aviez une dernière question, s'il vous plaît.
Oui, comment le Parti Com s'est reconstruit après cette lourde défaite et comment se fait-il que les sondages se sont trompés?
Muriel, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, vraiment en deux mots, parce que le temps passe, comment le Parti travailliste peut se reconstruire, et puis comment ça se fait-il que les sondages se soient trompés? Vraiment, c'était vraiment une déconvenue aussi pour les organismes de sondage.
Alors c'est une question très difficile à laquelle sont en train en ce moment même de réfléchir les membres du Parti travailliste. Ils ont fait un compromis mercredi sur la marche à suivre en dévoilant la façon dont serait organisée l'élection d'un nouveau leader. Les candidats ont jusqu'au 15 juin pour se présenter et après un débat et un profond examen de conscience du parti, son nouveau dirigeant sera annoncé le 12 septembre. Il sera intéressant de voir qui a été choisi, parce que d'un point de vue idéologique, il y a deux thèses qui s'affrontent. Il y a ceux qui veulent un virage plus à gauche pour faire concurrence au discours anti-austérité du SNP, mais d'autres travaillistes estiment que ça risquerait de faire fuir les derniers électeurs au centre de l'échiquier politique.
Merci beaucoup Muriel Delcroix en direct depuis Londres, 33 9 693 693 70. On salue Thierno Sadou qui nous avait appelé depuis le nord de la Guinée. Nous sommes en ligne maintenant avec Sanou qui est à Bamako, Mali. Bonjour Sanou.
Bonjour.
Vous avez suivi, vous, l'affaire sur les écoutes téléphoniques de l'ancien président Nicolas Sarkozy. On écoute votre question sur cette affaire.
Parfait, merci à toute l'équipe des RFI. Tout d'abord, je souhaiterais une très bonne chance à mon pays pour l'accord de paix dans cet après-midi de vendredi 5. Et ceci dit, j'ai écouté effectivement sur RFI que la cour d'appel a retenu les écoutes sur Nicolas Sarkozy. Et par la suite, il a été inculpé. Mais la question est la suivante. Quelles peuvent être les conséquences sur la vie politique de Nicolas Sarkozy dans les jours à venir par rapport à cet acte?
Pour vous répondre, Véronique Rigolet dans le studio. Véronique Rigolet du service politique de RFI. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Le 7 mai, la cour d'appel de Paris valide ces écoutes téléphoniques, des conversations entre Nicolas Sarkozy, son avocat, maître Thierry Herzog, sur, selon les enquêteurs, ces échanges téléphoniques prouveraient une volonté de corrompre un magistrat, Gilbert Azibert. Quelles peuvent être les conséquences sur la carrière politique de Nicolas Sarkozy?
Déjà, la validation de ces écoutes, c'est bien sûr pas une bonne nouvelle pour Nicolas Sarkozy, mais déjà, il faut bien préciser le contexte. C'est l'an passé que Nicolas Sarkozy a été mis en examen dans cette affaire des écoutes. C'était en juillet 2014. Il a donc fait appel, et la cour d'appel a donc jugé, c'était la semaine passée, que ces écoutes étaient légales. Nicolas Sarkozy n'est donc pas mis en examen depuis la semaine passée. Depuis un an, mise en examen, vous l'avez dit, corruption, trafic d'influence, c'est un véritable coup rude politique, bien sûr, pour lui, parce que son ambition, vous le savez, c'est bien sûr de se représenter à la présidentielle de 2017, et si le pourvoi en cassation que viennent donc de déposer ses avocats devait être jeté dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, eh bien, ça voudrait dire qu'un procès pourrait intervenir avant 2017 et donner peut-être, si Nicolas Sarkozy devait être condamné, un coup d'arrêt à ses ambitions présidentielles notamment. Eh bien, bien sûr, si une peine d'inéligibilité était prononcée, on n'en est pas là. Il y a ce recours en cassation, on verra ce que la justice dira. La seule certitude, c'est que désormais, eh bien, on ne peut plus écarter la possibilité d'un procès avant 2017, la présidentielle.
Une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'ancien président. Merci Véronique. Restez avec nous parce qu'il y a encore une question standard avec Amadou qui nous appelle depuis Avignon. Bonjour Amadou.
Bonjour Sébastien et bonjour à Véronique.
Alors Amadou, quelle est votre question sur cette même affaire des écoutes téléphoniques validées concernant Nicolas Sarkozy?
Et voilà, moi, sachant qu'il est... En fait, ma question se concentre sur le parti, sachant qu'il est président de l'IMP, suite à cette décision de la Cour d'appel de Paris, quelles seront les conséquences sur l'IMP en fait?
Véronique, quelles conséquences sur l'union de la majorité présidentielle alors qu'il est en train de, voilà, il est à la tête du parti, il essaie de le réformer, de relancer pour la prochaine présidentielle.
C'est un parti maintenant qui est, vous l'avez dit, sous la menace de ces affaires judiciaires. Ça concerne au premier chef Nicolas Sarkozy, on vient d'en parler. Ça concerne plus ou moins le parti selon le calendrier judiciaire qui va se dérouler. Pour le moment, il n'y a pas eu de conséquences notables. C'est pour ça que je voulais rappeler que ça fait déjà un an qu'il est mis en examen. De fait, ça n'a en tout cas pas empêché Nicolas Sarkozy d'être élu président de l'UMP, c'était en novembre dernier. Donc de ce côté-là, ça n'a rien changé. Qu'est-ce qui peut se passer à plus long terme, dans les prochains mois? Eh bien, ce qu'on doit rappeler, c'est d'abord le processus électoral de l'UMP. Il va y avoir des primaires en 2016 à l'UMP qui devront départager les candidats. On les connaît, Alain Juppé, François Fillon, Xavier Bertrand et Nicolas Sarkozy. Si Nicolas Sarkozy devait être empêché par la justice, eh bien, ce calendrier électoral de l'UMP, qui s'appellera plus certainement d'ailleurs Les Républicains, va se poursuivre. Alors évidemment, on peut dire que voilà, si Nicolas Sarkozy est empêché, ses adversaires évidemment se frotteront les mains. Il y a juste un cas où on pourrait avoir une énorme difficulté, c'est qu'est-ce qui se passerait, attention, il va y avoir beaucoup de si Nicolas Sarkozy gagnait la primaire en novembre 2016 et qu'il était convoqué par la justice, donc entre novembre 2016 et mai 2017, date de l'élection présidentielle, qu'est-ce qui se passerait s'il était convoqué et condamné? L'UMP n'aurait donc plus de candidat, on aurait fait affaire vers une crise majeure. Mais à nouveau, il y a beaucoup de si. La justice fait son travail, même si aucun scénario peut être écarté.
Merci beaucoup, Véronique.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.